Bon, ben, on va commencer sans attendre les retardataires, parce que bon, il est 19h05, c'était prévu à 19h. Bon, de toute façon, ils iront se mettre dans le fond. Oui, alors avant toute chose, Didier Moreau, le bien-aimé directeur de l'Espace Manès France, m'a dit de vous dire que, après donc, les causeries de Carole Mondon et Marc Tricot, il y aura à 20h45 le débat avec les autres intervenants et qu'entre-temps, donc, il faut que vous ayez le temps d'aller casser une petite croûte. Il y a une cafétéria en haut où vous pourrez vous restaurer facilement et rapidement et à moindre coût. Bon, voilà, la publicité est faite. Non, mais c'est vrai, c'est très sympa. Voilà, donc on va essayer de tenir le temps, c'est-à-dire de le commencer là maintenant, et puis de terminer vers 20h, 20h05, tout dépendra des questions des uns et des autres, de façon qu'on ait le temps d'aller casser une petite croûte avant le second débat à 20h45. Alors donc, là, je vous présente Carole Mondon, qui avec Michel Pain ont une petite société d'audit et de conseil en amélioration de l'énergie sur l'habitat. Je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Bon. Et Marc Tricot qui interviendra après. Alors, dans un premier temps, ils interviendront en même temps, ils se renverront la balle. Et Marc Tricot, lui, a une petite entreprise. Alors, lui, il est dans le pratique, qui met en œuvre. Eux, c'est l'audit et le conseil. Et lui, c'est les réalisations. Ce sont les réalisations qu'il fait sur les maisons. Alors, tous azimuts. Hein, il fait des économies d'énergie sur tout, avec tout. Et il vous l'expliquera en détail. Alors, je laisse la parole à Carole Mondon, qui a fait. Ils ont fait un très joli. Diaporama, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Vous pouvez y aller, Carole. Hein? Vas-y. Le micro, là. Prenez le micro. Ouais.
Allô? Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour cette conférence. Je me présente, Carole Mondon, société Camilliac 86 à Vendeuil-du-Poitou, spécialisée dans tout ce qui est bilan thermique, économie d'énergie et diagnostic immobilier.
Donc, Marc Tricot, je suis à Bignou, une entreprise individuelle spécialisée dans l'approche globale du bâtiment, donc les énergies renouvelables et l'isolation naturelle.
On va vous faire une conférence sur quelle non-énergie pour demain. Donc, au niveau du sommaire, on va faire un état des lieux sur l'activité humaine et l'impact au niveau de la planète. On va balayer les dessous des années 70, ça sera un petit peu chaud à ce moment-là. On va vous présenter quelques exemples concrets, des pièges commerciaux à éviter, et on va vous faire une conclusion par la suite.
Voilà, donc on va commencer par la conférence en vous montrant les graphiques sur la démographie. On pense que l'humanité ne peut pas aller de l'avant sans avoir un regard sur le passé. Voilà, donc on va développer. Voilà, donc si on regarde un peu, on va retenir deux choses à travers ce graphique. On va dire la démographie. Jusqu'au début, on va dire, de l'ère industrielle. Donc, 1 milliard d'êtres humains en 3 millions d'années, grosso modo. Donc, ce qui correspond, on va dire, au début d'utilisation de l'homme, quand on a commencé à utiliser les gisements, on va dire, de charbon et de pétrole. Voilà. Donc, voilà, donc c'est un peu notre mascotte, on va dire notre symbole. Voilà, donc l'être humain a utilisé l'énergie fossile en 4 siècles, alors que d'autres solutions pouvaient s'imposer. On une simplicité de départ, mais pas forcément celle de l'arrivée. Voilà. Le soleil est une énergie renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous apporte en une heure autant d'énergie que l'homme en consomme en un an sur la Terre. Donc, voilà. On s'est donné des solutions de facilité, voilà, avec le pétrole. Voilà, bon, maintenant, je pense qu'on arrive à sortir de l'ère fossile. Il va falloir, de toute façon, hein, puisqu'on va arriver dans l'épuisement des gisements. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, on va dire, c'est un peu cette mutation. Et donc, ce sera à nous de mettre en œuvre aujourd'hui des solutions pour capter cette énergie. Et les capter aussi, c'est aussi de moins en consommer. Ça passera par le droit de développer tout au long de la conférence.
Alors, le pétrole est arrivé. Donc, au départ, on avait une brouette, une personne. Puis après, la science a fait des progrès, on est passé sur des gros engins mécaniques avec des vérins hydrauliques. Et grâce au pétrole, on a eu donc un échange entre un tracteur et 1000 hommes. Donc c'est vraiment une énergie importante que nous apporte le pétrole.
Voilà, donc les conséquences environnementales de l'activité humaine. Donc je vais vous montrer une petite chose. Donc on pense que les... La destruction des milieux se passe à l'autre bout de la planète, et non, ça se passe souvent chez nous, à nos portes. Voilà, je prends l'exemple, ça c'est chez moi, il y a une ligne de tension qui passe. Tous les ans, en période de migration, je retrouve des oiseaux qui, par collision en période de migration, tapent les fils et retombent sur mon terrain. Donc je retrouve 6-7, c'est simplement un exemple, mais pour dire 6-7 sur 50 mètres de long, vous imaginez les quantités de lignes de tension qu'il y a sur la Terre. La disparition des oiseaux, la réfraction, ça passe aussi par là. Donc c'est nos infrastructures qui... Voilà, donc autre impact aussi, on va dire, c'est les marées noires. Donc comme on dit, on fait venir du pétrole sur nos côtes. Donc quand il arrive un naufrage, on le voit à la télévision, hein, c'est des milliers d'oiseaux qui sont mazoutés et qui meurent et disparaissent, sans compter la faune et la flore aquatique.
On a aussi, par rapport aux matériaux de construction qu'on utilise, besoin d'utiliser, de mettre en place des poisons dans nos maisons pour chasser tout ce qui est ratailles et compagnie. Donc des pollutions qui peuvent être dangereuses pour la santé.
Voilà, et puis la diapo du bas, c'est une photo que j'ai prise en 1999. Ça correspond à la forêt de Gizé. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on a eu deux tempêtes en 4 jours, je crois. De tempêtes qui étaient vraiment inconnues, hein, par les climatologues sur notre secteur. Bon, voilà, après, vous avez les climato-sceptiques qui disaient à l'époque la tempête, c'est accidentel, c'est une tempête, c'est la tempête du siècle. Mais depuis 1999, je ne vais pas faire de catastrophisme, mais on s'est rendu compte que quand même, si c'était la tempête du siècle, depuis, on en a eu deux, il y en a eu une grosse dans les Landes, et puis Xintia. Voilà.
Alors, pour une technique.
Voilà, l'écologie, hein, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent aujourd'hui. Hein, pour oublier que l'écologie, c'est encore les interactions qu'il y a entre l'homme et le milieu dont il vit. Bon, voilà, donc, je crois qu'on en a fait un peu le tour pour ici.
Donc, si on a une énergie près de chez soi, en particulier avec les éoliennes, on peut limiter les lignes à haute tension, donc limiter les dégradations de paysages, limiter les impacts sur la faune environnante. Donc, par rapport à ce que disait Marc tout à l'heure sur le décès des oiseaux, au niveau d'une étude réalisée par une association canadienne, sur 10 000 décès d'oiseaux, on a pu comptabiliser 1370 décès d'oiseaux contre un mort par éolienne. Donc ça donne des proportions et on constate que ça a quand même un impact important.
Voilà, donc les conséquences aussi de la raréfaction de l'énergie. Hein, voilà, donc l'énergie n'est pas inépuisable. Donc aujourd'hui, vous avez conjugué la démographie, on va dire, la raréfaction de l'énergie. Voilà. Donc les conséquences sont économiques, et derrière elles engendrent ce qu'on appelle la précarité énergétique. Voilà, parce que l'énergie, c'est mondial, on le verra tout à l'heure. Donc les conséquences, on va dire, de dégradation de l'habitat.
Donc au niveau de la dégradation, on a avec avec ces problèmes de chauffage dans les maisons, on a apparition de moisissures, de dégradation, de salissures, et donc d'allergies au niveau des personnes, un mal-être général et une dégradation de nos maisons. On va passer au-dessous des années 70.
Donc voilà, on va partir sur une maison type. Hein. Dans les années 70, on a construit des maisons, je dirais, faiblement isolées, peu performantes. C'est ce qu'on retrouve un peu partout. Voilà le constat, moi, en tant que professionnel, de ce qu'on peut voir dans cette maison. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces maisons. Voilà, le cheminement et toutes les solutions pratiques. Donc, c'est des constats. On ouvre les toits pour isoler les maisons. Donc, ça nous arrive de voir des roulements. Donc, cette maison, par exemple, pendant près de 30 ans, ces roulements sont restés éteints. Donc, ce qu'on appelle des vis cachées. Aujourd'hui, c'est un contrôle technique des maisons. Hein. C'est-à-dire qu'on va mettre une thermographie et si vous avez une malfaçon comme ça, elle va apparaître. Et bon, en attendant, ce n'est pas représentatif de l'habitat aujourd'hui en France. Donc, il y a encore beaucoup de malfaçons. Vous avez aussi des choses comme ça. Ça, c'est au départ, ce n'est pas une malfaçon. Vous êtes avec un isolant type laine minérale. Voilà. Donc, ce type d'isolant, il y a un inconvénient, c'est qu'il finit par se distendre et laisser passer l'énergie. Donc en apparence, c'est vrai, on a l'épaisseur, mais on a le pont thermique ici. Donc ici, vous perdez l'énergie.
Sur une maison de 100 mètres carrés, il faut savoir que quand on a un pont thermique qui est comme ça de l'ordre de 2 cm de part et d'autre des solives, on a à peu près 7 mètres carrés de la maison qui se retrouve sans isolant. Donc ça veut dire que vous avez 7 mètres carrés qui sont extrêmement déperditifs, qui vous coûtent cher à longueur du temps. Et si vous levez vos tuiles à un moment donné et que vous ayez la chance de lever la tuile à ce moment-là, à cet endroit-là, vous allez voir de l'isolant, tout va bien, mais vous n'allez pas voir les ponts thermiques. Donc c'est vrai qu'en caméra infrarouge, on peut les mettre en évidence. Et puis on a aussi des vieilles laines de verre comme l'image du bas. Pour certaines personnes, quand on voit de la laine de verre, c'est que c'est isolé et donc on touche à rien, on change pas les isolants. Alors la maison, notre maison modèle qu'on a prise, au niveau du bilan thermique, on se retrouve à avoir 284 kWh par mètre carré par an de consommation. Donc pour une maison de 100 mètres carrés, on a 28 000 kWh qui sont consommés à l'année. Ça représente en coût énergétique entre 1500 et 2100 euros par an, selon qu'on utilise en fourniture soit de l'électricité, soit du gaz, soit du fioul.
Ça, c'est l'énergie mondiale. Voilà. Donc, comme je dis, aujourd'hui, il faut raisonner avec l'énergie mondiale parce que localement, on n'a pas de solution, hein. Même au niveau national. Mais au niveau national, c'est pas nous autres qui définissons le prix de l'énergie. Donc, le pétrole, 41%, le gaz, c'est 21%, charbon, 21%, nucléaire, 7%, bois tourbe, 6%, hydraulique, 3%, et les énergies renouvelables, 1%. Ça, c'est en train d'évoluer aujourd'hui. Hein. Est un peu dépassé. Mais bon, quand on voit que si avec ça on veut substituer, je dirais simplement le pétrole, il y a quand même du parcours à faire. Donc ça sera très compliqué. Donc bon, c'est pour ça qu'on développera un peu l'approche gigawatt. Tout à l'heure, je parlais de sobriété énergétique. Et puis pour le nucléaire, je vais laisser faire.
Pour le nucléaire, on s'aperçoit que ça ne représente que 7% au niveau du monde. Et encore, les chiffres sont revus à la baisse. Ça représente quand même 440 centrales. Et si on devait donc remplacer le pétrole par du nucléaire, il faudrait 2577 centrales, soit à 7 milliards d'euros la centrale. Ça fait un gros investissement. Donc financièrement, aujourd'hui, cette capacité d'investissement n'est pas là. Et on va voir sur la diapo d'après les problèmes énergétiques. Le pétrole, on nous annonce en termes de réserve du pétrole pour une cinquantaine d'années maximum, du gaz naturel une soixantaine d'années, de l'uranium 70 ans.
Il faut savoir que dans le bâtiment, on a quand même 40% de l'énergie qui est utilisée pour le bâtiment. Donc, pour faire durer ces réserves-là, qui sont à l'échelle de la planète un échéancier relativement court, enfin très court, il va falloir réduire considérablement nos maisons au niveau du bâtiment, de façon à réduire cette part-là et faire durer un peu plus longtemps nos réserves énergétiques.
Sont chauffés à l'électricité. Donc souvent, il y a du locataire derrière. Et bon, voilà, donc comme je dis, on résume ici à travers cette diapo, on peut considérer que ben, le nucléaire, c'est malheureusement nécessaire à alimenter les passoires et que vous pouvez toujours faire des centrales si vous ne travaillez pas sur l'amélioration des performances énergétiques de la maison. Voilà, donc pompe à chaleur, chauffage électrique. À savoir que cet équipement, quand il est mis sur des émetteurs haute température, quand les températures en hiver avoisinent les 0 degrés, ça devient un véritable chauffage électrique. Voilà. Donc derrière, ça veut dire que ben, voilà, avant les pompes à chaleur, les gens ils avaient une chaudière à fioul, ils l'ont fait remplacer par cette machine. Donc on a substitué à l'équipement thermique qui consommait du pétrole par un équipement, on va dire, l'énergie fissile. Voilà, on n'a fait qu'un transfert. Et quand on a les pics de froid, moins 5, moins 10 degrés, on entend attention, à 19h, on risque d'avoir le blackout. Bon, on ne l'a pas eu jusqu'à maintenant, mais bon, voilà, ça risque de venir. Voilà, parce qu'on en a mis, je dirais, à toutes les sauces. Et non pas sur des maisons bien isolées. Voilà.
Alors, quelle énergie choisir par rapport à cette maison modèle ?
Voilà, le pétrole, le gaz, le nucléaire, le bois, le solaire, l'éolien, le canadien.
Peut-être d'autres, mais la meilleure énergie est celle non dépensée.
Quelle autre solution ? L'isolation, la ventilation ?
L'anti-gaspi et le bon sens aussi, le bon sens près de chez nous. On l'a un peu perdu, ce bon sens. Alors, pour toujours cette maison, donc on est à 284 kWh. Si toutefois on la chauffe au pétrole, on va avoir une, dans l'état actuel où elle est livrée, on aura une facture de 1977 euros par an. Si on travaille sur l'isolation de la maison, on va passer sur 590 euros par an. Donc quand même un gain financier non négligeable. Si on va vers une solution de progrès, comme on entend parler partout, parce que ça fait marcher le commerce, on nous prône la chaudière à condensation, on s'aperçoit qu'au lieu de consommer 1977 euros, on va consommer 1823 euros. Le gain est très très faible pour un investissement dans votre chaudière à condensation qui est très important. Donc plutôt que d'investir dans un équipement de chauffage qui continuera d'alimenter le pétrole ou le pétrole, autant basculer sur une solution durable et de réduire nos consommations énergétiques de façon durable. Au niveau du gaz, on a le même principe. Donc l'énergie, le kilowattheure de gaz est un peu moins cher que le kilowattheure pétrole. Donc on est à 1518 euros de chauffage par an. On travaille l'isolation, on passe à 521 euros. On fait marcher le commerce de la croissance verte avec une condensation. On est à 1358. Donc encore un gain relativement maigre par rapport à notre facture d'origine.
Voilà, donc... L'électricité, donc on est à 2066 euros. Isolé, on passe à 710. Voilà. Donc avec une PAC R, on serait à 1500 euros.
Pompe à chaleur. Voilà.
Pompe à chaleur, RR. Bois granulé, 1085. Voilà. Vous isolez, vous passez à 289. Bon, on peut voir aussi que quand même l'énergie biomasse est quand même la moins chère actuellement.
Alors pourquoi isoler sa maison ? En fait, bon, ça c'est les graphiques qu'on retrouve couramment au niveau de l'ADEME. On considère que dans une maison classique, les déperditions par la toiture sont de l'ordre de 30%. Au niveau des murs, on est à 25%, les vitrages 13%, le sol 7%. Bon, c'est variable. Une maison sur sous-sol, comme on a vu, on peut monter jusqu'à 20%. Les ponts thermiques 5% et tout ce qui est renouvellement d'air 20%. Donc encore une fois, la meilleure énergie est celle non dépensée. Donc il faut travailler l'enveloppe de façon à réduire nos consommations et nos coûts énergétiques.
Les ponts thermiques, c'est quoi ?
Les ponts thermiques, c'est quand on a une non-continuité de l'isolation entre deux éléments. Et en fait, on a de la chaleur qui va s'en aller, on va dire, par les angles, pour simplifier.
C'est des fuites. Voilà, quelle autre solution ? Donc, habiller la maison. Voilà, donc, l'isolation dans les combles. Voilà, avec des isolants performants, performants en été et en hiver, on le développera tout à l'heure. Voilà, VMC double flux aussi, on voit les tuyaux ici, pour ne pas perdre d'énergie. Puisque, voilà, donc en déperdition, c'est 30% par le toit. Prépare les murs, donc vous avancez encore dans cette démarche d'autonomie, hein. Donc 25% par les murs, et puis 7% par le sol. Voilà, dans les vides sanitaires, ou alors dans les sous-sols, vous pouvez isoler les planchers aussi.
Donc c'est comme pour nous quand on a froid, on met le bonnet, on met le pull, on met les chaussettes et là déjà ça va vachement mieux. Et après on peut aussi doper la maison avec l'énergie de la terre de façon à réduire ces 20% de pertes par l'air renouvelé qui est nécessaire à notre bien-être dans la maison.
Voilà, donc utiliser l'énergie de la terre, c'est possible. C'est pas forcément une géothermie avec une pompe à chaleur derrière, ça peut être aussi un puits canadien. Simplement, l'appoint, il sera, je dirais, une autre origine, par exemple la biomasse. Donc, je vais faire assez rapide, mais bon, voilà. Donc, voilà le puits canadien. C'est quoi ? C'est pas grand-chose. C'est un tuyau qui passe dans le sol à 2 mètres de profondeur. Ce tuyau, il a la particularité d'être un polypropylène très argentique. Il a une très bonne conductivité aussi pour transmettre l'énergie de la terre. Et vous renvoyez ça dans la maison. Donc, dans la maison, ça va sur cette ventilation mécanique contrôlée double flux. Voilà, donc qui va permettre de répartir cette énergie. Donc vous avez un flux d'air qui va rentrer dans cette cheminée. Il fait moins 5 degrés dehors. Voilà, vous rentrez à moins 5 degrés dans cette cheminée, ça suit ici. Ça prend un choc thermique et quand ça ressort, vous avez 10 degrés pour du moins 5. Donc vous calculez le delta T. Pour l'instant, vous n'avez pas dépensé un centime. Si vous aviez une simple flux, voyez, comme ici là, avec des bouches d'air par exemple, vous avez moins 5 degrés dehors, mais vous faites rentrer du moins 5 degrés dans votre maison. Donc si vous faites rentrer du moins 5, vous refroidissez votre maison. Donc si vous refroidissez votre maison, vous allez aussi devoir éjecter l'air que vous avez chauffé, que vous avez payé. Et vous allez la faire sortir sur le toit. Donc en thermographie, les bouches, elles sont rouges condensantes sur le toit. Donc ça, c'est 20-25% de votre énergie qui part avec de la simple flux. Voilà. Quand il fait chaud, c'est pareil. Plus 35, ici, qui rentre dans cette cheminée, qui est aspirée. Il prend le choc thermique, mais inverse. Voilà, donc elle est refroidie, vous arrivez à 20 degrés. Donc voilà des solutions aussi. La climatisation, ça consomme, je dirais, autant que le chauffage électrique qu'on a vu tout à l'heure. Bon, le puits canadien peut apporter des solutions. On ne peut pas en mettre partout, sur en ville, mais bon, voilà, on a d'autres solutions pour se parer avec les isolants. Mais si on peut combiner tout ça, c'est toujours d'apport en énergie.
La puissance électrique d'une ventilation double flux est très très faible par rapport à la puissance électrique d'une pompe à chaleur. Donc là, on travaille aussi bien les déperditions en hiver que les conforts en été. C'est comme on a le double effet qui se coule, en fait.
C'est quoi une double flux par rapport à une simple flux ?
La simple flux, en fait, vous rentrez l'air par les aérations des fenêtres pour renouveler l'air dans la maison. Et quand cet air-là est réchauffé, enfin, balaye l'ensemble de la maison, se réchauffe à 20 degrés, ça arrive dans les pièces d'eau, cuisine, salle de bain, WC, et vous mettez ça dehors en sortie haute. Donc, comme disait Marc, quand il fait moins 5 degrés dehors, on chauffe cet air-là de moins 5 jusqu'à 20 degrés pour le foutre sur la toiture. La double flux, on a une entrée. Enfin, quand elle est couplée au puits canadien, on a l'air neuf qui rentre par cette tuyauterie. Ça passe à l'intérieur d'un caisson de ventilation double flux, dans lequel, en fait, on aspire aussi l'air de la cuisine, salle de bain, WC, classiquement. On a un échangeur thermique à l'intérieur de ce caisson-là. Et on échange les calories de l'air chaud vicié qu'on doit mettre dehors avec l'air neuf extérieur qui est plus frais. Et après, on vient réinjecter dans les pièces à vivre, les chambres, les séjours, cet air préchauffé. Et on a une quatrième bouche pour faire ressortir l'air vicié dehors.
Voilà, d'autres solutions. Donc, on va dire l'énergie solaire thermique. Donc là, en l'occurrence, le système combiné. Donc, tout à l'heure, je parlerai en comparaison des puissances entre le thermique et le photovoltaïque, où souvent l'amalgame est fait. Voilà, le granulé de bois, le bois déchiqueté, le bois bûche. Tout ça peut être utilisé, ce qu'on appelle en hydroaccumulation. Donc là, vous avez vraiment 100% d'énergie renouvelable, puisque vous êtes avec la biomasse. Mais je dis attention, parce que le bois, c'est une énergie renouvelable, mais pas inépuisable. Donc, on ne réglera pas nos problèmes d'énergie avec le bois. Donc, il faut aussi, pour respecter les milieux, pas surexploiter les forêts. Voilà. Et aussi, on peut remarquer que c'est des chaudières autrichiennes. Elles ont été conçues aussi pour brûler du résineux. Le résineux est une essence à croissance rapide. Donc, vous obtenez le meilleur pouvoir calorifique avec les résineux. Voilà. Donc, comme eux, ils considèrent que c'est un peu une hérésie de brûler un chêne. Il faut beaucoup de temps pour faire un chêne. Par contre, un résineux, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, vous émettez toute cette énergie sur de la basse température si possible. Voilà, ici en l'occurrence des murs chauffants.
Alors par rapport à notre maison d'origine, où on était à 28 400 kWh par mètre carré par an, on a mis le pull, on a mis les chaussettes, on a mis le gilet, on a mis un système performant de chauffage avec une ventilation pour le renouvellement d'air et on arrive à une consommation annuelle de 4 870 kWh par an. Avec une facture énergétique de 127 euros au lieu de 1500 à 2100 comme tout à l'heure. Donc les investissements, les investissements tout confondus sur cette maison-là sont de l'ordre de 45 000 euros pour après une facture annuelle de 127 euros. Alors on a des solutions complémentaires qui vont reprendre des actions globales et cohérentes.
Voilà, donc le chauffe-eau solaire qu'on entend souvent parler, hein. Donc capteur thermique. Donc là-dedans, vous passez un fluide, vous voyez, donc ça c'est la continuité, ce qu'on appelle le groupe de transfert qui va faire circuler un fluide caloporteur à l'intérieur. Voilà, donc 4 mètres carrés de capteur évite en émission de gaz à effet de serre l'équivalent d'une voiture qui roule 10 000 km. Donc c'est un impact direct, on va dire, sur l'arrivée du pétrole sur nos côtes. Voilà.
Donc là, on a une économie de 70% qui passe par une utilisation de l'énergie solaire du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, avec aucune autre utilisation d'énergie que celle du soleil. Sachant qu'avec la belle arrière-saison qu'on a eue, on a utilisé le solaire jusqu'à la mi-novembre cette année. Donc de l'eau chaude gratuite jusqu'à mi-novembre.
Donc la récupération d'eau de pluie. Donc pour arroser le jardin, on va dire, hein, c'est une façon. Par contre, les toilettes, je pense que j'ai essayé.
Au niveau des toilettes, donc il existe des systèmes à toilettes sèches. Donc là, on a mis un modèle, on va dire, simple à sueur de bois. Il existe des toilettes sèches à séparation de matière et de liquide. Ça représente 35 litres d'économisés par jour sur les 160 par personne et par jour. Au jour d'aujourd'hui, ça coûte encore pas trop cher, mais on va avoir des taxes sur l'assainissement qui vont venir dans le temps. Donc il faut commencer à réfléchir à ce genre d'économie. Et ça reste un peu dommage de mettre dans nos toilettes de l'eau potable quand on sait que dans certains pays, ils n'ont pas d'eau potable à boire.
Voilà, donc le photovoltaïque, donc je reviens un peu à ces capteurs. Souvent l'amalgame, ce que je disais tout à l'heure, est faite entre ce type de capteur et ce modèle-là. Ce modèle-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'hydraulique, donc un fluide qui passe derrière une vitre, il y a un absorbeur, donc on retransmet l'énergie pour chauffer un ballon. Voilà, là-bas, c'est de la silice. On transforme l'énergie solaire en énergie électrique. On va donner quelques mesures de grandeur, hein. Donc ici on transforme cette énergie, ça passe par un onduleur, actuellement ça se passe comme ça, ça passe par un onduleur qui transforme le continu en alternative 50 Hz compatible avec le réseau. Et vous pouvez revendre l'électricité ou revendre le surplus. Voilà, ou la totalité. Voilà, donc ou la garder si vous êtes en autarcie énergétique, mais en ce cas, il vous faut des batteries. Voilà, donc je prends une installation qui coûte environ 15 000 euros, qui produit environ 2 kilowatts, et vous produira en kilowattheure la même quantité qu'une installation de solaire thermique qui coûte 5 000 euros. Voilà, donc simplement pour vous dire que si on était cohérent, on installerait d'abord du solaire thermique sur les maisons. Voilà, parce que l'impact, je dirais, en émissions de gaz à effet de serre, enfin, serait certainement sûrement trois fois supérieur à du photovoltaïque. Donc pour être cohérent, on commence par ça, on commence par bien isoler la maison, et ensuite on vient mettre, on va dire, du photovoltaïque et de l'éolien.
On a eu l'occasion d'intervenir sur des contrôles de maisons qui installaient du photovoltaïque, et pour certaines maisons qui avaient droit à des primes de région qui sont financées par nos impôts. On devait réaliser des diagnostics de performance énergétique. Il est clair que certaines bâtisses, et je dirais que c'était le cas de 85% des maisons, si elles avaient mis leurs 15 à 18 000 euros d'investissement photovoltaïque dans une isolation de maison, ça aurait été beaucoup plus rentable pour tout le monde. Mais on est sous couvert de la croissance verte, donc on a fait marcher le photovoltaïque et on a fait marcher nos impôts.
Voilà, donc comment financer un projet comme ça ? Donc là, je regarde, c'est ma maison. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut mettre des choses dans la balance, le loisir ou l'amélioration de la maison. Voilà, donc c'est un choix. Voilà, et bon, après, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un camping-car. Avec ce que j'ai fait sur ma maison, le thermique, etc., j'aurais aussi pu me payer un beau camping-car et emmener ma famille en vacances bien loin. Voilà, mais bon. Ma conscience verte fait que ben, la balance a plutôt penché de ce côté-là. Voilà. Oui. Oui.
Est-ce que vous avez pu différencier la part d'électricité que vous consommez, qui a été consommée pour chauffer, et l'autre part d'électricité pour tout l'appareil électroménager de ce qu'on a ? Parce que là, vous avez donné des chiffres, et bien vous avez parlé que du chauffage. Alors, on ne sait pas si ce que vous.
C'est uniquement le chauffage et l'eau chaude, monsieur. On ne regarde pas l'électrodomestique pour le moment.
Oui, donc ça c'est pour la production d'eau chaude. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, voilà, production d'eau chaude, on a vu deux chaudes, on a vu ce qu'on appelle le système combiné, où vous faites de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, et ensuite on a vu le chauffe-eau solaire, où vous faites uniquement la production d'eau chaude. Et donc,
le chauffe-eau solaire, oui.
Vous avez des applications indirectes, on n'a pas développé, mais avec ça, vous pouvez raccorder les machines à laver le linge et la vaisselle, et vous pouvez faire 2/3 d'économie en plus d'électricité.
Et vous pouvez même désherber le jardin gratuitement avec de l'eau chaude et sans utiliser les pesticides.
Si vous voulez prendre la parole, vous me faites signe et puis je vous apporterai le micro. Tout comme ça, on entendra mieux. On vous a entendu, vous avez une bonne voix, forte. Mais c'est pour l'enregistrement. Hein. Voilà. Non, c'est pas grave. Oui, madame.
Moi, je voudrais apporter une précision sur l'histoire du chauffage au bois dont parlait Marc. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va déforester tout le Poitou-Charentes en utilisant du chauffage au bois dans nos maisons. Alors d'une part, c'est vrai que le Poitou-Charentes n'a une superficie boisée que de 17%, ce qui se situe bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 25%. Mais une étude a été faite récemment par l'AREC, l'Agence Régionale Évaluation Environnement Climat, sur la biomasse et sur l'utilisation du bois. Alors là, il y a des idées reçues incroyables. Figurez-vous que le bois qu'on utilise pour chauffer nos chaudières de petite et moyenne puissance en Poitou-Charentes, il vient d'une manière très minoritaire de la forêt, mais ultra minoritaire. C'est de l'ordre de moins de 10%, je dirais plutôt 5%. La grande majorité de ce qu'on utilise dans nos chaudières, c'est des produits connexes de l'industrie du bois, qui est très florissante en Poitou-Charentes. On a énormément d'utilisation industriels de bois, des menuiseries, etc., des découpes, des plaquettes, des palettes. Et c'est les produits de récupération de ces industries qui sont transformés en plaquettes et qui servent majoritairement dans les chaudières. Donc il ne faut pas se faire un vieux schéma, la forêt va être détruite à cause de nos chaudières au bois, c'est complètement faux. Et le gisement est encore très important, il est sous-évalué, enfin il n'est pas sous-évalué, il est sous-utilisé. On a encore de grandes réserves en plaquettes. La plaquette revient à peu près à 50 euros la tonne. Alors que la plaquette forestière, quand vous allez récupérer du bois dans la forêt pour faire de la plaquette, ça coûte 80 euros la tonne. On n'est pas sur les mêmes tarifs, d'où le succès de la plaquette de récupération. Par ailleurs, il existe beaucoup de cheminées, ça c'est un autre problème, c'est pas la chaudière. Les cheminées, soit avec insert, soit sans insert, qui sont historiquement un mode très aimé en Poitou-Charentes, et le bois bûche représente l'immense majorité de l'utilisation du bois dans nos cheminées, dans nos inserts, sous la forme de bois bûche. Mais ce n'est pas l'histoire des chaudières. Donc on peut y aller, on ne nuit pas à la forêt.
Non, oui, mais... on peut même ajouter une seconde, c'est que la forêt française, qui est le massif forestier, est un des plus importants d'Europe, augmente de 1% chaque année.
Oui, ce que je veux dire simplement, c'est que la forêt est sous-exploitée, je suis tout à fait d'accord, mais simplement, je dirais, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire qu'on a encore un potentiel, mais le pétrole, à la vitesse à laquelle les énergies montent, je dirais, les gens vont rapidement aller vers des équipements thermiques, pas forcément très performants, hein, et donc on risque de voir arriver des pénuries. En plus, le domaine forestier, il est aussi pas mal dans le privé. Donc aujourd'hui, vous avez des grands parcs forestiers qui ne sont pas exploités puisque c'est des réserves de chasse, etc., etc. Donc bon, voilà. Mais je dis, il y a encore un potentiel. Je dis simplement, moi, j'anticipe. J'anticipe et je dis, le bois, il peut y en avoir pour tout le monde, mais je préfère encore qu'on utilise le bois pour isoler les maisons puisqu'on ne va pas le brûler, plutôt que de le brûler dans des maisons qui sont mal isolées. Voilà, c'était un peu mon point de vue, mon idée générale.
Donc, quelques exemples concrets, de façon à vous montrer les évolutions énergétiques. Donc, comme chez Marc.
Donc, je reviens un peu à ma maison pour montrer un peu, je dirais, les démarches que j'ai faites. Donc, j'avais pris le problème un peu à l'envers à l'époque, puisque j'avais commencé par mettre des capteurs thermiques, etc., puisqu'on n'avait pas les connaissances générales des techniques d'isolation par l'extérieur. Bon, j'avais quand même relativement atténué mes factures énergétiques avec des énergies renouvelables. Bon, aujourd'hui, je me suis attaqué un peu maintenant à l'amélioration des performances énergétiques en isolant la maison par l'extérieur. On avait fait un test, ça c'était suite à la canicule de 99, je crois. Oui, c'est ça. 2003 plutôt, je confonds avec tout à l'heure.
C'est donc, la tempête en 99.
Voilà. De 2003, qui avait marqué aussi les esprits et puis avec le drame qu'il y avait derrière. C'était dans la chambre de mon fils, qui à l'époque devait avoir, je ne sais plus, un an, quelque chose comme ça. Et il faisait 36 degrés en fin de journée dans sa chambre. Donc, pour une maison qui était dite au label Promotelec. Voilà, 36 degrés, donc ça veut dire que c'était une maison qui n'avait pas d'inertie thermique, etc. etc. Donc, les ponts thermiques aussi, je vais laisser Carole...
C'est dommage, parce que finalement, tu avais une maison qui faisait sauna sans consommer d'énergie.
J'aurais préféré l'hiver.
Donc, au niveau des ponts thermiques, quand on isole les murs par l'intérieur, on s'aperçoit que toute la dalle de sol génère des déperditions. Donc, c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure. Donc, on chauffe l'intérieur de sa maison. La chaleur se transmet au niveau de notre sol. Et comme on n'a pas de barrière thermique avec des isolants, on a la chaleur qui s'en va par l'extérieur, par la dalle de sol. Donc ce système d'isolation par l'intérieur est limitant. C'est pour ça qu'il est préférable de travailler l'enveloppe extérieure et aller enterrer les isolants au niveau du sol pour éradiquer ces ponts thermiques.
Donc, comme chez moi, c'est la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, voilà, démarche de progrès. Le prochain, ça sera le micro-éolien.
Et pareil, au niveau des isolations, aujourd'hui, on nous parle de crédit d'impôt. Donc, on nous dit, si vous voulez avoir un crédit d'impôt, il faut mettre une résistance thermique au niveau de vos plafonds qui va être de 2,8. Il faut savoir que si vous engagez des travaux aujourd'hui, vous allez avoir des frais fixes par le déplacement des gens, par le taux horaire au niveau de l'artisan qui va intervenir. C'est pas la peine de se limiter à la réglementation thermique de 2005. Si vous faites des travaux aujourd'hui, commencez déjà à vous projeter sur la réglementation thermique de 2020. Donc ça veut dire que c'est faut viser le 40 cm. Enfin déjà, faut viser 30, 35, 40 si vous pouvez. Moi, je vois des maisons, enfin des gens qui engagent des factures de rénovation pour le strict minimum pour le crédit d'impôt. C'est insuffisant, il faut monter la marche tout de suite.
Comme chez Carole.
Donc les conseilleurs sont les payeurs. Tout ce qu'on a, on a mis en œuvre à notre maison, ce que l'on conseille régulièrement aux clients de façon à démontrer l'efficacité du travail sur l'enveloppe. Donc au niveau des murs, on a donc éviter les ponts thermiques en travaillant le soubassement. Donc on a creusé la dalle de sol, on a enterré du liège au niveau de ce soubassement, et ensuite on a monté sur les murs des solives de 150 mm d'épaisseur dans laquelle on est allé déverser des copeaux de bois retenus par un pare-pluie en fibre de bois. Donc le copeau de bois, matière de récupération de travaux de scierie, ça coûte pas cher, ça isole très bien, c'est respirant, on a une bonne densité, on a une bonne inertie, donc tout va bien. On peut le faire par soi-même, ça coûte beaucoup moins cher, bon, il faut avoir des bras. Au niveau du bureau, on a mis des bottes de paille dans la toiture, donc pareil, c'est pas cher, c'est 4 euros le mètre carré pour 40 cm d'isolant, donc ça défie toute concurrence. En plus, on en avait plein juste derrière chez nous, donc c'était très bien. Le bilan carbone pour le transport a été quasiment zéro. On a payé la ficelle. Donc là, il faut savoir qu'en termes de confort d'été, parce qu'on a mis ces bottes de paille au mois de juillet, on a gagné 5 degrés dans notre bureau. Donc on a eu les ménages qui se sont mis au frais en gagnant ces 5 degrés et en travaillant de façon beaucoup plus confortable. Et au niveau du séjour, on a isolé avec 24 cm de fibres de bois et lin, posé sur un pare-vapeur complètement scotché, de façon à gagner aussi en étanchéité à l'air, qui est un gros problème dans les maisons. Et le chat s'en retrouve bien confortablement installé sur le matelas. Et puis, voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc, on a pris un bardage bois en fibre, en du Douglas, donc une essence locale qui venait du Limousin. On n'a pas voulu mettre de peinture sur ce bois-là. On l'a pris thermohuilé à l'huile de lin. Et en plus, on a pris du bardage toute largeur de façon à limiter les coupes de bois et limiter le prix du mètre carré, en variant la décoration, soit un bardage vertical, soit un bardage horizontal. On a aussi mis un chauffe-eau solaire, enfin c'est surtout Marc qui l'a mis. Et puis, on a aussi travaillé les huisseries. Alors les huisseries, attention, parce que c'est l'élément de construction qui coûte le plus cher au mètre carré, et c'est celui qu'on rentabilise jamais sur la vie d'homme. Et en plus, si les huisseries sont mal montées, on va avoir des défauts d'étanchéité entre la maçonnerie et le dormant. Donc il faut absolument traiter l'étanchéité entre ces deux éléments de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Ce qui n'a pas été le cas, nous on a essuyé les plâtres parce que les gens qui ont travaillé n'ont pas très bien travaillé. Mais ils sont revenus, on leur a montré que c'était pas bien au travers de caméras infrarouges. Ils ont été d'accord et ils ont repris une partie de leur travail. Donc là par exemple en infrarouge, on démontre qu'on a des fuites d'air qui passent entre le bâti de fenêtre et le mur, et ça vient nous refroidir le mur de notre, là en l'occurrence de la salle de bain, avec derrière des problèmes de condensation d'humidité sur ces murs-là. Donc une dégradation du bâti à la suite d'une mauvaise installation, du non-respect des règles de l'art. Donc faut être vigilant, faut surveiller ce que l'on fait, ce que l'on fait faire. L'homme est un loup pour l'homme, donc il y a des pièges commerciaux à éviter et on va vous en présenter quelques-uns. D'abord sur les réalités commerciales par rapport à l'appât des artisans où Marc est confronté à ce genre de choses régulièrement.
Voilà, donc je voudrais simplement vous montrer un peu comment je dirais, est influencé le choix des équipements que va vous vendre l'artisan. Voilà, donc l'artisan qui est passionné d'automobile, de voyage, etc. eh ben, la tentation sera difficile. Voilà, donc pour lui, s'il pose
des pompes à chaleur.
Des pompes à chaleur. Voilà, donc ben voilà, il a toutes les chances de.
Les 20 installateurs ayant acheté le plus de packs RR partira à Monaco.
Voilà. Donc, bon, voilà. C'est un peu.
Ouais. Et en plus, il aura même une petite prime en liquide de 110 euros pour aller boire un coup sur le bord du grand circuit. Donc tout ça, c'est bien au détriment du consommateur. Oui, par contre, ça fait marcher encore une fois la croissance verte.
Voilà, c'est pas forcément l'intérêt du consommateur. Même, vas-y, Michel, tu vois, dans la continuité. Donc là, on a le ballon thermodynamique. On a vu beaucoup de communications qui ont été faites sur ces ballons-là après le boom de la pompe à chaleur là, il y a 3 ans. Donc ils ont un peu rebondi là-dessus en prétextant que le chauffe-eau solaire n'avait plus sa place. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait des équipements qui étaient équivalents, voire plus économiques que le chauffe-eau solaire. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière? Donc, pour l'instant, on ne l'avait pas démontré.
Donc là, il y a eu une étude faite par le COSTIC, c'est le Centre d'études et de formation en génie climatique, qui a mis en évidence que les ballons thermodynamiques qui sont vendus, qui sont présentés dans le commerce avec des coefficients d'obtention de performance de l'ordre de 3, 3,5, ont des coefficients de performance beaucoup plus faibles. Alors qu'est-ce que c'est ce coefficient d'obtention de performance? Quand on dit qu'on a un COP de 3, ça veut dire que vous consommez 1000 kWh à votre compteur, c'est ce que vous payez, et le système vous en restitue 3000. Donc vous avez 2000 kWh gratuits. Mais en fait, l'étude faite par le COSTIC démontre que dans le meilleur des cas, on est sur des COP de 1,6 à 1,9. Ça veut dire que quand vous en consommez 1000, il vous en restitue 1600 ou 1900 et non pas 3000. Donc si vous faites un calcul pour rembourser votre ballon thermodynamique sur 3000 kWh, ben en fait, vous vous mettez le doigt dans l'œil. On gagne, on va dire, 900 kWh gratuits. Donc ça veut dire que derrière, les gens qui sont partis sur cette solution-là vont avoir beaucoup plus de temps, vont devoir payer beaucoup plus longtemps que prévu leur investissement. Sachant que par ailleurs, c'est un investissement qui vous fait consommer de l'électricité du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est pas un équipement qui est correctement vendu.
Et le résultat de l'enquête n'a toujours pas été publié officiellement.
Donc là, il s'est marqué, l'ADEME nous avait toutefois annoncé une publication imminente, c'était en février. En juillet, l'étude n'était toujours pas sortie. Donc quand on est vendeur de ce genre de matériaux, c'est sûr qu'on n'a pas intérêt à ce que cette étude rentre aux yeux de tout le monde. Il faut savoir aussi, bon, il y a des modes, hein. Nous on fait les salons respire, choses comme ça. Pendant une époque, on voyait beaucoup de pompes à chaleur au niveau des stands. Cette année, sur le salon Respire, on en a vu beaucoup moins. Par contre, on a vu quelques ballons. Il faut savoir que le deuxième sujet de litige au niveau national, ça reste la pompe à chaleur après la téléphonie mobile. Donc ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Et donc, méfiance.
Voilà, donc quand les marchands de Pâques font leur pub. Voilà, donc moi, ça m'est arrivé d'aller chez des clients pour parler de ce que je vends, c'est-à-dire le bois. Voilà, donc les clients m'ont remis un jour ce tract, m'ont dit, mais monsieur, vos chaudières, comment vous prétendez qu'elles font 95% puisqu'ils m'ont sorti ce tract? Donc les marchands de pompes à chaleur prétendent qu'eux, ils ont 370% et que le bois fait 75% maximum de rendement. Ils vous disent aussi qu'on ne peut pas faire d'eau chaude sanitaire avec le bois. Donc avec le bois, naturellement, vous faites de l'eau chaude. Voilà.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on nous vend un système en nous disant qu'on a 370% de rendement. Donc ça veut dire un COP de 3,7. Donc 1 kW consommé à votre compteur, 3,7 kW restitué. Il faut savoir que ça se fait dans les laboratoires, qu'on fait ce genre de dimensionnement, quand il fait 7 degrés. Or, en plein hiver, comme on a vu tout à l'heure, quand on avoisine les températures de 0 degré, de moins 5, de moins 10, de moins 15, comme on a connu ces hivers, le COP, en fait, il va passer de 3,5, enfin de 3,7 à 1,5, 1,2. Donc c'est pour ça que dans ces moments de grand froid, notre pompe à chaleur devient l'équivalent d'un radiateur classique. Et donc on sollicite beaucoup les centrales et c'est comme ça qu'on frôle le blackout à chaque fois. Donc ça, c'est pour l'aspect coût, parce que bon, celui qui paye l'électricité, c'est celui qui a acheté la pompe à chaleur. Et donc, il paye très cher sa facture énergétique. On nous parle d'écologie sur ce genre de produit. Il faut savoir que dans les pompes à chaleur, c'est le même principe qu'un frigidaire, par une compression-évaporation des gaz. Les gaz qui sont à l'intérieur des pompes à chaleur sont des gaz frigorigènes qui sont 1300 fois plus nocifs que le CO2. Et le CO2, c'est lui qui participe au réchauffement climatique. Donc en termes 1300 fois plus mauvais, c'est pas bien. Et d'autre part, il faut savoir qu'il n'y a aucun réseau de liquide caloporteur qui est étanche. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêté qui est sorti pour qu'au-dessus d'une certaine puissance de pompe à chaleur, on fasse contrôler les équipements de pompe à chaleur tous les 2 ans. Et ça veut dire que tous les 2 ans, on va aller remettre du liquide frigorigène à l'intérieur de notre circuit. Donc l'écologie, c'est pas top top. Donc là, au niveau des matériaux, c'est pareil. Hein. On se frotte à des lobbies de construction qui s'appellent Isovert, qui s'appellent Saint-Gobain, et qui nous démontrent que la fibre de bois, c'est un matériau qui est vraiment très faible en termes de performance acoustique, en termes de performance thermique, de même que liège. Performance thermique très faible, facilité de pose, pas très sympathique. Aujourd'hui, sur ces deux produits-là, ça fait partie des meilleurs isolants phoniques et des meilleurs isolants thermiques parce qu'on a de l'inertie thermique, on a de la densité de produit, on a des matériaux qui sont perspirants, donc on a des matériaux qui apportent du bon à nos maisons. Donc ça, c'était une publicité faite chez EVM Matériaux. Par contre, si on regarde la laine de verre, je ne sais pas où elle est. La laine de verre, bah, tout va bien. Et en plus, c'est pas cher. Elle n'est pas belle, la vie. Bah, le canard, moi, j'en parle pas trop parce que j'ai entendu parler que les canards étaient plumés à vif. Donc, c'est pas top top. Et en plus, les souris, pour le coup, aiment bien la plume de canard. Donc, c'est pas ce que je préfère. Mais on a largement de quoi faire l'isolation de nos maisons avec la ouate de cellulose, qui est le recyclage de papier journal. Donc on est sur une revalorisation d'un produit déchet. Et puis on est la fibre de bois est très bien et la laine, le liège aussi. Bon, le liège c'est pareil. On le conseille, nous, que dans des applications particulières quand on ne peut pas faire autrement parce que c'est un matériau qui est imputrescible, qui ne craint pas l'humidité. Donc on le conseille sur les surfaces où on ne peut pas choisir autre chose. Donc les bas de mur à la rigueur, et c'est vrai qu'il est quand même cher au mètre carré. Le jour où on remettra nos chaînes liège en place avec l'exploitation dans le sud de la France, on pourra peut-être avoir une filière de liège qui sera plus accessible à tout le monde.
Oui, ça commence à se faire, mais enfin, il faudra déjà 10 ans. Hein. Non.
Les poules auront des dents, presque.
Pour une petite surface.
Alors après, au niveau des isolants, on a des tableaux d'informations qui nous permettent de comparer le confort d'été avec le confort d'hiver. Aujourd'hui, chez nos copains Isovert, ils ont des produits où on a des super résistances thermiques. La résistance thermique, il faut savoir que ça va avoir un impact sur le confort d'hiver. Par contre, en confort d'été, les laines de verre ont des comportements qui sont pas très bon. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des produits qui sont à très faible densité. En fait, c'est cette ligne-là. Donc la laine de verre, on est sur des produits avec une densité de l'ordre de 15 kg par mètre cube, qui fait qu'on a une capacité thermique pour résister à la chaleur qui est relativement faible. Ça veut dire que si on veut un déphasage de 12 heures, c'est-à-dire que le déphasage, comment on l'exprime ? Quand vous avez le soleil qui donne sur le toit de votre maison, à 8 heures du matin, qu'on a un déphasage de 12 heures. Ça veut dire que la chaleur qui est sur votre toiture va devoir mettre 12 heures avant de pénétrer l'ensemble des couches de matériaux de structure et d'isolation pour pénétrer dans votre maison. Et la chaleur qui est sur le toit donc rentre à l'intérieur de la maison au bout de 12 heures. Si on veut ce déphasage thermique avec de la ouate de cellulose, on nous dit qu'on va, grâce entre autres à la densité du produit qu'on met en place, avoir ce confort avec 30 cm de watts. Si on veut isoler avec de la laine de verre et qu'on veut ce même déphasage thermique, il nous faut 78 cm de laine de verre. Donc si on fait un calcul du coût de la matière qu'on va devoir investir, on va s'apercevoir que d'acheter 78 cm de laine de verre va nous coûter plus cher que de mettre 30 cm de watts de cellulose. Et en plus, on ne nous dit pas que les laines de verre sont d'une durabilité relativement faible, mais on l'a vu tout à l'heure au travers des premières au niveau des premières diapositives, où on a des ponts thermiques qui se créent par le travail de cette laine de verre. Donc, ce ne pas des produits qui sont durablement intéressants. Par ailleurs, on reste quand même sur de la fibre minérale, comme l'amiante, la même structure. Donc, on a fort à parier que dans quelques années, on aura les mêmes problèmes de santé qu'avec l'amiante. Mais tant qu'il y a de l'économie à faire, on ne se préoccupe pas du bien-être des gens et de leur santé. Voilà.
Vous pensez que la laine de verre, c'est dangereux pour la santé ?
Oui. Bah, monter dans les combles, moi j'y monte régulièrement, je redescends toujours en toussant. Et on n'a pas besoin de marcher sur la laine de verre, de la bouger pour se rendre compte qu'on tousse comme ça. Hein. Et quand vous regardez ça dans un rayon de lumière, vous allez voir qu'il y a plein de petites fibrilles qui brillent, et donc parce qu'on a des fibres qui s'envolent.
Ça fait peur. Hein.
Sachant qu'on est sur un produit léger, donc comme nos toitures sont régulièrement sous les vents dominants, eh ben, on brasse ce paquet de merdouilles. Donc c'est pas très bien.
Donc là je vais oui.
Exactement.
La structure de l'amiante est une structure creuse. Et ce serait la raison pour laquelle l'amiante serait dangereuse pour l'homme. Alors que, à ma connaissance, la fibre de verre n'est pas creuse.
Moi, je reste. Enfin, je ne sais pas vous dire là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est que la fibre de verre est un matériau minéral. Quand on a des poussières qui passent au niveau du système respiratoire et qu'on a une fibrille qui vient se planter dans le poumon, on a beau envoyer nos petits anticorps organiques pour lutter contre ce petit matériau minéral, on n'arrivera jamais à le détruire. Donc, on a tout un paquet qui va s'agglutiner au niveau de cette fibre et on va mettre 10, 20, 30, 40 ans avant de déclarer une maladie. C'est possible ce que vous dites, je ne sais pas. Moi, dans le principe, le minéral chez nous n'est pas traité à l'intérieur du corps humain.
Moi, je parlerai du principe de précaution, tout simplement.
Oui, bah, je vous apporte le micro. Mais bon, vous levez-vous parce qu'on vous entend bien. C'est bien.
Souvent, mais je n'ai pas de laine de verre qui flotte dans les combles.
Parce bon, que par vous contre, avez une laine de verre écologique.
Je ne sais pas. Vous savez, la maison à 16 ans, maintenant, bon, à l'époque, l'écologie, il n'y avait que quelques personnes qui s'intéressaient à ça. Hein. Bien. L'autre chose que je n'ai pas entendu, excusez-moi, mais ce que je voulais dire à propos de la laine de verre, c'est que moi, disons, ce que j'ai comme connaissance dans ce domaine, c'est que si vous comparez laine de verre, laine de roche et amiante, c'est une question de taille de particules essentiellement. Hein, c'est-à-dire que la laine de verre, dès que vous montez dans le grenier ou dans vos combles, comme vous dites, vous vous grattez, vous toussez.
Dans celle des clients,
voilà.
Surtout.
Et vous toussez. Chez moi, c'est propre. Ou des clients. Bon, vous toussez et parce que les fibres sont longues. La laine de roche, les fibres sont beaucoup plus petites. Donc elles vont pénétrer beaucoup plus loin dans les poumons et elles vont vous gêner. Et effectivement, elles peuvent générer des problèmes. Et l'amiante, bon, on sait les problèmes qu'elle génère aussi. Mais vous avez un peu plus bas que l'amiante, vous avez les nanoparticules. Bon, hein. Alors, on ne va pas en parler.
C'est un autre débat, là. Hein.
Mais il n'est pas question de parler de ça pour l'isolation des maisons. Hein. D'accord ?
Non, surtout qu'on a fait un an de débat sur les nanotechnologies, donc pas ce soir.
Bon, en tout cas, moi, je tousse aussi bien avec la laine de roche qu'avec la laine de verre. Et je vois, je dirais, 70% je vois de la laine de verre.
Voilà. Il y a plus de 20 ans, quand, avec Jean-Yves Legrand, on se battait contre l'amiante. On se battait contre l'amiante. Et Lucie, je pense, le cas d'une Evritube qui a fouillé ses déchets d'amiante dans l'Indre-et-Loire. En face de nous, on avait des scientifiques, des techniciens, des politiques, hein, non-verts, monsieur, qui disaient que l'amiante, c'est sans danger. Qu'on dise, comme dit Marc, que la laine de verre, la laine de roche, ça sera peut-être dans l'amiante dedans 20 ou 30 ans, c'est sûr. Donc il y a des choses, le minimum de précautions à faire. Et ces fibres-là sont considérées comme dangereuses depuis quelques dizaines d'années. Donc il vaut mieux éviter d'avoir ça chez soi et surtout de mettre ça chez les autres. Parce qu'on ne parle que d'habitat individuel, mais l'habitat collectif. Donc le gars qui est en HLM et qui chauffe avec une chaufferette électrique qui a été mise il y a 10 ans ou 15 ans, ben il faut qu'il paye toute sa vie. Le gars qui habite un studio en ville, parce que le propriétaire a transformé la maison bourgeoise en 10, 20 studios, il a mis le chauffage, ce qui était le meilleur marché, et même il a eu des aides, des primes d'EDF s'il est en collectivité, ou des aides pour le faire, et c'est le locataire qui paye. Les problèmes de santé, de danger, sont suffisamment graves pour qu'on ne confie pas ça à la profession médicale qui s'est plantée en beauté sur l'amiante comme elle se plante sur le nucléaire. Donc là, une précaution minimale, comme vous le dites, est une bonne chose.
Donc oui. je vais continuer peut-être.
Attends,
avec la diapo.
Je vais juste rajouter. Bon, pour l'amiante, on savait fin 1890 que c'était un produit cancérigène. En 1907, on a su officiellement que c'était cancérigène. On a attendu 1997 pour l'arrêter. Et encore, on a arrêté la vente en France, mais on continue d'aller les vendre en Afrique ou d'aller les vendre dans les pays arabes. Bon. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a bien eu 90 années pendant lesquelles l'État a fait du commerce avant l'intérêt des personnes.
Voilà. Donc, on revient à la laine de verre. Donc, oui, la souris. Donc, on va un peu développer souvent. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui vous appellent pour mettre des isolants naturels. Bon, oui, pas de problème. Par contre, on vous laisse la laine de verre, la laine minérale dessous. Donc, les conséquences, c'est phénomène de tassement. C'est-à-dire que vous mettez une couche dessus et puis vous dites que vous avez atteint les objectifs. Simplement, au bout d'un an, vous vous rendez compte que les témoins, c'est descendu de 5 cm. Donc, première erreur. Deuxième erreur, bon, comme on dit, on ne mélange pas le linge sale avec le linge propre, puisque dessous, de toute façon, ça va être une niche à souris. Voilà. Donc, les rongeurs ne sont pas dérangés ou, vont venir se mettre dessous, puisque dessous, vous avez le plafond qui est en dessous et vous avez une bonne température et il y aura des galeries et des ponts thermiques. Donc, résultat des courses, le gain que vous pensez obtenir en rajoutant un peu d'ouate, vous allez le reperdre en dessous.
Alors voilà, on arrive à la fin de la conférence. La conclusion, c'est difficile de dormir tranquille quand on commence à ouvrir les yeux. Voilà.
C'est optimiste.
Oui. Et puis, un petit clin d'œil aussi à ce que propose l'association des Négoawatts sur leur scénario de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Donc là, on vous a démontré que la sobriété énergétique, c'est de travailler l'enveloppe des maisons, de façon à ce que nos 40% d'énergie consommée deviennent beaucoup plus faibles. L'efficacité, c'est de mettre en place des systèmes qui soient efficaces pour les maisons, comme les ventilations double flux, les équipements puits canadiens géothermiques, et le renouvelable, au travers des ballons d'eau chaude sanitaire ou alors au niveau du bois. Marc, si tu veux rajouter quelque chose.
Voilà, donc planète Terre. Hein. Moi, j'aurais pu une vision aussi humaniste pour conclure. Hein. Je me dis, là, sur cette Terre, en 2050, on sera 9 milliards d'êtres humains. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, pour pouvoir permettre à ces 9 milliards d'êtres humains, c'est peut-être utopique, mais de pouvoir cohabiter. Mais bon, ça passera un peu par tout ce qu'on a dit ce soir à travers notre conférence, c'est-à-dire par le partage des énergies, mais aussi des richesses. Voilà, on ne pourra pas indéfiniment plus voyager comme on le fait en avion, etc., etc., puisque de toute façon, l'énergie va se raréfier. Voilà, et puis il faudra, sera nous, de, je dirais la destinée de l'homme se joue maintenant, je pense. Voilà, et comme je reprends une phrase d'Hubert Reeve, le 21e siècle sera vert ou ne sera pas. Voilà, c'était ma conclusion.
Bien.
Merci.
Bon, mais merci à Carole Mandon et Marc Tricot. Si vous avez quelques questions à poser encore, vous avez 5 minutes seulement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la demande de Iné Moreau, l'autre conférence débat commence à 20h45, donc si vous voulez aller vous restaurer, donc on prend encore 5 minutes de questions diverses. Alors, monsieur, attendez. Bon.
Bonsoir. Pour vous qui connaissez bien le terrain maintenant, qui connaissez la façon de réagir des gens qui veulent viser leur maison, et peut-être aussi la façon de réagir de ceux qui ne le font pas, quelle serait la meilleure mesure des pouvoirs publics pour inciter et aider à la reconversion des logements anciens existants ?
Ben actuellement, il y a bien des incitations qui sont faites, mais comme on a pu voir, aussi de la dérive de par les lobbies. Hein, donc ben c'est à double tranchant. Aujourd'hui on sait un peu que c'est un peu l'argent qui mène la danse, comme on a pu voir. Donc moi je dis par des incitations, mais aussi par des garde-fous. Voilà. Parce que c'est un peu l'anarchie aujourd'hui. Donc pour inciter et aller vers une amélioration. On sait que le parc Habitat se renouvelle à la hauteur de 1% par an. Et que pour prendre le virage, il faudra un siècle. Donc, on a vu des maisons à 250 kW, 300 kW au mètre carré par an. Aujourd'hui on fait du BBC à 50, mais il va falloir descendre en dessous pour 2020. Donc, bah voilà, je dirais, l'objectif à atteindre, je dirais, ce ne sera pas sans douleur, à mon avis, dans les coutumes, etc., etc. Il faudra faire des sacrifices, ça passera aussi. On vit aussi déjà la crise énergétique, donc il y aura besoin de moyens. Donc, je parlais de partage tout à l'heure, ça passera aussi par là, par la répartition des richesses. C'est inéluctable. Voilà. Et les chantiers participatifs. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est les solutions. Aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise, on fait participer les gens. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ce que je fais chez moi. Par contre, ils peuvent participer. Et s'ils participent, ils limitent le coût. Ils peuvent participer pour, pas forcément pour du travail qualifié, s'ils n'en ont pas les compétences, mais au moins, ça va déjà alléger la facture.
L'autoconstruction, bon, nous, on a fait une auto-éco-rénovation. On est sur des coûts de rénovation pour les murs extérieurs à 54 € par mètre carré. Une isolation traditionnelle en fibre de bois, mais avec une épaisseur un peu moindre, on est plutôt aux alentours de 200 € du mètre carré. Donc après, tout dépend de ce que l'on veut faire. C'est vrai que ça nous a occupé pas mal de week-ends l'année dernière, mais c'était sympathique. Hein. On a eu des copains qui sont venus, donc on fait marcher un peu le social aussi.
Bonsoir, merci pour ce bel exposé. Pour compléter la question précédente, ne penseriez-vous pas qu'à volume économique constant, c'est-à-dire avec des moyens économiques constants, plutôt que de diluer les subventions, on devrait les concentrer sur ce que vous avez présenté, d'abord l'isolation, et ensuite le solaire thermique, plutôt que par exemple le solaire photovoltaïque, qui est 3 fois moins performant. Et en corollaire, est-ce que dans la réglementation thermique prochaine, on aura l'obligation d'installer des capteurs thermiques solaires.
Ce qui est déjà le cas en Suisse.
En Suisse, oui, mais est-ce qu'en France, pourriez-vous nous dire si vous pensez que ça va sortir ?
Pour l'instant, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Hein. Je pense qu'il faudra attendre les prochaines élections et voir ce qui va se pencher de l'autre côté.
La réorientation des subventions.
Réorienter les subventions, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par réorienter les subventions pour vous ?
Eh bien, subvention 10... où un est dans l'isolation, un est dans les huisseries, un est dans la pompe à chaleur, deux dans l'éolien.
Donner des priorités, on va dire.
Réorienter, parce qu'il y a peut-être un grand levier, un grand rendement à une subvention sur l'isolation plus qu'ailleurs.
Bien sûr, mais je parlais de lobby tout à l'heure. Hein. Je regarde cet après-midi, là, avant de partir, je reçois un coup de téléphone, bleu ciel d'EDF, et donc je sais très bien ce qui se cachait derrière, et j'en reçois tous les jours. Hein, moi, je ne suis pas toujours à la maison pour les recevoir. J'ai mon frère qui est à Limoges, reçoit un coup de téléphone, bleu ciel d'EDF. Donc, il fait venir le soi-disant technicien qui vous fait un diagnostic assis dans une chaise, etc., etc., et qui vous propose une pompe à chaleur. Donc, voilà les difficultés. On parlait tout à l'heure de lobby, d'impulsion des lobbies. Donc, Non, maintenant, je dis, il faut légiférer, je dirais, aujourd'hui. Et puis, voilà, donc...
Mais certaines subventions sont décidées par nos élus.
Non, non, font, oui, enfin, sont décidées... voilà, vous avez un livre, là, je pense que... Je ne sais pas si je peux... Je vais le citer, hein, c'est La République du copinage. Donc, vous comprendrez rapidement comment ça fonctionne. Voilà.
Il faut quand même savoir, enfin, aujourd'hui, on a plus... Enfin, tout ce qui est matériel, équipement, présente plus d'intérêt commercial que tout ce qui est matériaux. Les maisons basse consommation dont on entend parler aujourd'hui, nous, on est allé à une réunion promo Telec. On a fait l'âne pour avoir du foin, pour aller voir ce qui se tramait derrière. Moi, je suis effarée de voir la part des ballons thermodynamiques vendus dans ces maisons basse consommation. Mais c'est une question politique. Hein. Si nos politiques nous engagent là-dedans... Parce que, justement, ça fait marcher le nucléaire, on va continuer d'aller là-dedans. Et c'est vrai que c'est démoralisant d'entendre dire que le ballon thermodynamique, c'est magnifique, alors que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont pieds et poings liés à un compteur électrique, donc à leur porte-monnaie.
Oui, également un point pour répondre à la question de monsieur, comment la mesure prioritaire... à prendre par les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a effectivement la réorientation des subventions. Je crois qu'aujourd'hui, y compris en Poitou-Charentes, où aujourd'hui, il y a plus d'aides financières, de subventions de la région pour l'installation d'énergies renouvelables. Bon, c'est un point positif, mais il n'y a pas de subvention de la région, moi que je me trompe, sur l'aide à l'isolation, sauf pour les personnes à très faible revenu. Voilà. Mais hormis les personnes à très faible revenu, il n'y a pas d'aide financière à la rénovation des logements. Autre point, je crois que la priorité, c'est bien la rénovation énergétique des logements et qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas d'obligation. Dans le scénario Négawatt, par exemple, et il y a un nombre d'ingénieurs qui disent il faudrait mettre en place une obligation à chaque fois qu'il y a un logement qui est mis en vente ou en location, c'est-à-dire dans l'entre-deux entre l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire, il faut obliger à la rénovation énergétique du logement. Si on ne met pas ce type d'obligation en place, ça ne se fera pas.
Mais bon, attention, c'est vrai hein, ce que tu dis, Jean-Paul. Nous, on a reçu un technico-commercial, encore une fois, on a fait l'âne pour avoir du foin. La personne est un commercial mordant qui vient chez vous. Il vend de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique. Et il vous fait des bilans énergétiques avec des cotations 0, 5, 10, 15, 20. Et il vous regarde votre chauffage, votre isolation avec ces critères-là. C'est complètement insuffisant. Parce que ce monsieur-là, il va mettre les coches qui vont aller bien pour qu'à l'arrivée, il puisse vous vendre ce qu'il a à vous vendre. C'est-à-dire du thermodynamique ou de la pompe à chaleur, qui est d'ailleurs de la pompe à chaleur RR. Et les gens se font embobiner là-dedans. Son bilan, il est gratuit. Donc les gens, aujourd'hui, sont dans cette étape-là aussi et ils veulent du bilan gratuit. Le conseil ne se paye pas. Donc ça veut dire que, bon, nous, on fait des bilans, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas gratuitement. Il faut, à un moment donné, investir dans du conseil qui est fiable. Pour protéger le consommateur, il faut investir un minimum. Bien. Rien n'est gratuit dans notre monde aujourd'hui. Hein, donc il faut se méfier de ce qu'il y a derrière. Tout se perd, ma pauvre Lucette.
Non, ce qui n'est pas cher, c'est les sandwichs que vous allez manger, si vous voulez. Hein, dans... Alors voilà. Et on se donne rendez-vous à 20h45 pour les débats. Alors il y aura un petit film de présentation parce que Didier Moreau est allé interviewer. Il y a deux ou trois jours, Edgar Morin, il lui a demandé son point de vue sur toute la problématique que nous abordons en ce moment. Donc c'est intéressant. Toujours.